Blabla, blabla,
blabla,
blabla,
blabla,
blabla,
blabla,
blabla,
blabla,
blabla, le podcast de Bike Café.
Donc bonjour Adrien Laplanche, écoute, je t'appelle pour qu'on parle de Odos, mais avant d'attaquer notre échange, je voudrais un petit peu introduire le sujet, parce que j'ai regardé ton site, et j'ai vu que lorsqu'on parle de pratique le vélo, lorsqu'on pratique le vélo, on commence généralement par refaire des trajets que l'on connaît. On les fait en voiture généralement ou en transport en commun très rapidement, même si le vélo apporte un autre regard à ce que nous connaissons, on aura envie d'autre chose. L'idée d'aventure nous effleure et progressivement nous dévore. Nous avons une multitude de sources qui peuvent nous inspirer des découvertes. Nos vélos sont curieux d'aller les découvrir et peut-être plus particulièrement le gravel qui pourra s'introduire un peu partout. J'ai découvert ton projet, Adrien, comme tu l'expliques sur ton site, est à la rencontre de trois passions qui finalement n'en font qu'une. Le vélo, le voyage et les cartes. Donc pour toi, le vélo a toujours été une évidence au quotidien entre Paris et la banlieue. Dès 1997, tu vas l'utiliser pour venir de la banlieue vers Paris. Le voyage est venu ensuite, hors des sentiers battus, à la recherche non pas de terres inconnues, mais de jardins secrets, de pays habités par d'anciens souvenirs. Les cartes, enfin, qui t'ont transporté sur des chemins pleins de promesses, à la façon de cartes au trésor. Adrien, tu as imaginé un univers cartographique différent de ce que nous livre aujourd'hui l'OSM, l'OpenStreetMap, ou l'IGN, Institut Géographique National. Sa lecture du territoire est différente, car elle tient compte de l'empilement des couches entre les dimensions parallèles de l'histoire, de la vie et de l'urbanisme. La juxtaposition de cette immense richesse de la ville, de sa banlieue et de ses environs t'intéresse. Le pays de Paris est un labyrinthe qui ne cesse de se transformer. Comme tu le soulignes, il ne s'agit pas de régulariser, de normaliser, d'aseptiser. Le culte de l'osmanisme, de la voie rapide, de la table rase et de la rénovation outrancière est tenace, mais plutôt tu tentes de le réparer, de l'entretenir, de le cultiver. Alors Adrien, présente-toi, qui tu es et c'est quoi ce projet Odos ?
Oui, bonjour, merci Patrick. Écoute, donc je suis Adrien Laplanche. Je suis un cycliste né, en quelque sorte. Hein. J'ai une carte orange, pour tout dire, pendant un mois, quand j'ai passé le bac. Et je viens de banlieue. Et, bon, pas très très loin, pas une banlieue très lointaine, je viens de Sceaux. Et donc, tous les jours, à partir du mois de septembre 97, j'ai fait des allers-retours Paris-banlieue. C'est comme ça que j'ai vraiment passé le cap du vélo que tout le monde pratique dans son enfance au vélo du quotidien à une époque, fin des années 90, où on n'avait pas le sentiment d'être très très nombreux à Paris. Donc, voilà, ça m'a donné une connaissance de Paris.
Tu es cycliste, mais pas seulement cycliste. Tu as quand même un regard, je veux dire, quelque chose qui me fait penser que est-ce que tu travailles dans l'architecture ou dans l'urbanisme ? Je sais pas. Tu as un regard d'après ce que j'ai vu.
Oui, j'ai un regard un peu, on va dire plutôt histoire de l'art. J'ai fait Sciences Po après une classe prépa, une hippocagne littéraire, et puis dans le cours de mes études, j'ai fait un peu d'histoire de l'art. Et donc c'est cette dimension histoire de l'art, je pense, qui nourrit le projet d'Odos à l'heure actuelle.
D'accord, d'accord. Et Odos, alors donc décrypte-moi et décrypte pour nos auditeurs ce que ça veut dire Odos, parce que il y a un joli logo sur ton site qui ressemble à une sorte de borne kilométrique. Alors borne kilométrique qu'on trouve rarement dans la région parisienne. D'ailleurs, t'as quand même été chercher ce symbole.
On en trouve plus beaucoup de ces vieilles bornes, surtout les rouges.
Surtout les rouges.
À la campagne, on voit encore un certain nombre de jaunes. Mais effectivement, c'est le. Alors Odos, ça veut dire le chemin. Pour répondre à ta question directement, le chemin en grec. Et donc, c'était pour exprimer un petit peu cette idée du chemin dans le logo qu'on a pris.
C'est plus joli que track, je dois dire. C'est Odos me plaît mieux que track. Ouais.
Oui. Il y a des gens qui parlent même d'odologie, la connaissance des chemins.
D'odologie, ouais, ça. Et quand tu portes le sac à d'odologie, c'est un peu plus lourd.
Ouais, c'est ça. C'est la seule utilisation de ce mot en français. Mais ceci dit, pour ceux qui sont allés en Grèce, odos, c'est la route là-bas.
D'accord.
Donc le chemin. Moi, c'est je suis effectivement passionné de, comme tu l'as rappelé dans ton intro, de cartes et de territoires et donc de chemins. Et en région parisienne, ce qui m'a frappé en promenant en me déplaçant à vélo tous les jours, c'est la complexité du réseau et la lecture qu'on en a et qui est orientée finalement par l'héritage haussmanien, mais surtout par une lecture automobile du territoire. C'est-à-dire que ouais. On sait tous, parce que ce sont des axes structurants au niveau spatial, on sait tous où sont les autoroutes, les nationales et les grands boulevards, les boulevards haussmanniens à Paris, mais on sait moins, sauf peut-être pour les riverains, les gens du
oui, les gens de leur quartier, quoi, en fait, les locaux,
voilà. Oui. On sait moins où sont les vieux chemins, les petits chemins qui continuent finalement, quand ils n'ont pas été interrompus ou élargis, et qui continuent à structurer le territoire et qui, en fait, permettent aux vélos de, et d'ailleurs éventuellement aux piétons et aux marcheurs, de se déplacer presque sans voir de voiture. Et moi, j'ai commencé en fait à faire le lien entre ces vieux chemins, donc ce qu'on peut apprendre en histoire géo sur les plans de Paris, sur l'évolution de la ville, à faire le lien entre les chemins anciens et la façon de se déplacer quand les premiers contresens cyclables ont été mis en place à Paris dans le courant des années 2000.
D'accord.
Là, en fait, vous avez à Paris toute une série de voies radiales qui vont du centre vers la périphérie, qui sont généralement des rues avec des noms de faubourgs comme la rue Saint-Honoré, ouais, la rue Saint-Jacques, la rue Vieille du Temple, etc., qui vous permettent de rejoindre, qui structuraient l'espace parisien en fait depuis l'époque médiévale et qui souvent en fait n'ont pas été élargis et depuis qu'on peut les prendre de façon continue grâce au contresens cyclable
qui reviennent un petit peu devant de la scène.
Voilà. Alors au devant de la scène, le malheur c'est que les contresens cyclables ont donc été pas mal déployés dans Paris, mais les derniers endroits où ils y résistent, ce sont souvent ces rues les plus structurantes, soit parce qu'il y a une ligne de bus, par exemple rue du Faubourg-Poissonnière ou rue Vieille du Temple, ou parce qu'on est dans des quartiers on va dire de luxe, de prestige, où la voiture est trop importante pour qu'on puisse ouais. y sacrifier ne serait-ce qu'un centimètre d'espace public. Et là, je pense à la rue Saint-Honoré, qui est l'une des plus belles rues de Paris, mais qui est toujours affligée de deux files de stationnement et d'un sens unique interdit au vélo.
C'est le constat d'Odos. Donc, en fait, au départ, c'est ce que tu as remarqué par tes transports quotidiens et ta pratique du vélo. Et donc, mais comment on passe du coup de ce constat, de ce lien avec effectivement l'histoire et les fameuses juxtapositions que tu évoques de couches, cette structure haussmannienne d'autrefois, et comment tu passes donc du coup à ce constat vers un projet qui me paraît avoir plein de sens, puisqu'on va tout à l'heure parler de cartes, mais c'est incroyable ce que tu as pu faire, quoi, pour.
Écoute, alors le point de départ, donc c'est vraiment quand j'ai réalisé en fait l'utilité pour le déplacement et pour le vélo des voies anciennes. Au départ, c'est une chose en fait finalement amène l'autre. Je voulais simplement faire un petit schéma et un état des lieux des voies dans Paris en constatant que ça avançait assez doucement et en constatant les résistances dont on vient de parler. Et puis en bon banlieusard, j'ai étendu le raisonnement à la banlieue et le raisonnement fonctionne extrêmement bien en banlieue. Et puis ça ouvre des perspectives perspectives d'exploration incroyables. Parce qu'en fait, si on continue sur cette idée que les petits chemins, les vieux chemins structurent le territoire et qu'on c'est des voies qui sont merveilleuses pour le vélo, quand on les suit, on découvre finalement la banlieue dans toute sa richesse. En fait, souvent quand on se déplace, tout à l'heure tu parlais de voiture ou de métro, oui, ou de RER,
c'est un peu ce qu'on copie, voilà, au départ, hein, parce que quand on monte sur un vélo, évidemment on va pas se lancer tout de suite dans l'aventure, on va suivre des chemins qu'on a pratiqué autrefois avec un autre type de véhicule, et puis ou même avec dans l'enfance, avec ses parents, enfin, etc. Donc on reproduit, mais progressivement
on reproduit jusqu'au contresens cyclable. J'ai roulé en Paris presque exclusivement sur du Haussmannien, et vraiment il y a un espèce de changement de paradigme qui s'est fait à ce moment-là, et quand on applique ce raisonnement et cette façon de se déplacer finalement à l'espace métropolitain, à la banlieue et au Grand Paris, on découvre un autre visage de l'envers du décor de la banlieue parisienne. C'est-à-dire que quand on se déplace en voiture ou en transport en commun, on prend un peu toujours les mêmes chemins, ouais, et on passe à côté. En fait, on passe à côté du vieux pays. C'est comme ça qu'on appelle les vieux centres, les vieux bourgs dans le nord de la région parisienne. Et tandis que quand on suit ces vieux chemins, on va d'église en église, on passe devant le château, on traverse les vieux faubourgs, on voit les vieux villages.
On retrouve des voies qui avaient autrefois du sens et qui correspondaient à une vie antérieure, puisque j'essaye de faire le parallèle avec ce que je vis moi en province. Moi, je suis à Aix-en-Provence. Et si tu veux, nous, on a les chemins ruraux. Enfin, tu connais la problématique de cette disparition de chemins ruraux qui est dramatique, qui aujourd'hui fait débat, mais qui était inéluctable. Enfin, on ne va pas transformer la France non plus en zoo, etc., pour touristes, mais quand même, il y a une mesure à apporter à tout ça, parce qu'il y a quand même des chemins ruraux qui étaient importants. Et donc, je fais exactement la comparaison avec ce que tu décris à la fois pour Paris et la banlieue. Et donc, aujourd'hui, c'est une grosse préoccupation. Et finalement, nous qui sommes à la recherche de chemins de traverse pour faciliter nos déplacements aussi, cette archéologie des chemins qui avaient du sens, et aujourd'hui, fait aussi, peut très bien profiter.
Ça fait du sens.
Ah ouais, ça fait vraiment du sens au point de vue
en milieu rural,
du déplacement.
Ouais. Tout à fait. En fait, en milieu rural, le raisonnement est exactement le même. Alors, tu parles de zoo pour touristes. Je pense qu'il n'y a pas qu'une dimension touristique, hein. Il y a une dimension finalement de mobilité. Et si on veut développer les mobilités alternatives, moi c'est l'une de mes convictions. C'est pas autant en déployant ce qu'on appelle dans le jargon des voies multimodales, où on a une jolie piste, enfin pendant une dizaine d'années, le long d'une voie avec un trafic automobile incroyable. Même si la piste est sécurisée, c'est pas là qu'on va avoir envie de faire du vélo. C'est-à-dire que c'est parfois très important, hein, pour résoudre un certain nombre de coupures et de discontinuités cyclables, de faire ces pistes-là. Mais c'est certainement pas le réseau qui va aider les gens à se convertir au vélo. Au contraire, tout le réseau des petites routes et des petits chemins où il y a soit pas du tout de voiture, et quand il y en a, elles circulent doucement, ce réseau-là, on peut tout à fait il est beaucoup plus dense, et il relie, comme on le disait tout à l'heure, des centralités historiques en réalité, et donc il a une pertinence incroyable pour les déplacements à vélo. Et ça vaut aussi bien, effectivement, comme tu le disais, en milieu rural qu'en métropole.
Moi, j'ai un exemple frappant sur une piste cyclable qui a été construite sur un trottoir, donc on doit se partager avec des piétons. Alors évidemment, c'est pas un grand trafic de piétons, hein, mais parallèlement à ça, il y a un chemin qui a été je dirais, phagocyté par un golf, qui est devenu impraticable, alors que c'était un chemin qui s'appelle le chemin des plaideurs, donc qui avait vraiment du sens aussi. Il y a un nom, toi, il y a vraiment une histoire derrière ce chemin, mais du coup, il est
devenu impraticable. Tous ces chemins ont des noms magnifiques, oui.
Voilà, et donc du coup, on ne peut plus passer sur ce chemin à cause du danger des balles qui volent, et puis il a été un peu, je dirais, emprisonné dans le golf, alors que le propriétaire du golf n'avait aucun droit sur ce chemin. Et donc voilà, on est dans un combat pour essayer de faire renaître, parce que du coup, celui-là nous permettrait d'éviter à la fois cette piste cyclable qui n'a pas vraiment de sens, enfin, parce qu'il y a les poubelles, il y a les gens qui se promènent avec les chiens, enfin, etc.
Donc c'est un trottoir
qui a été un peu plus fabriqué à un coût. Un coût de fabrication que j'ose pas imaginer, parce qu'évidemment, il y a des fleurs, il y a des machins, enfin, toi, on se fait plaisir. Enfin, il faut montrer aussi aux électeurs qu'on a fait des choses.
Mais oui.
Ces produits qui
sont... C'est ça que je trouve dramatique, effectivement, c'est dans la production, en fait, de pistes cyclables et de boulevards urbains, c'est la débauche finalement de matériaux qu'on voit à l'heure actuelle, alors que finalement tout ce que demande le vélo, c'est des aménagements minimalistes, c'est-à-dire un sol relativement lisse, pas de marche et puis quelque chose de suffisamment large. Et effectivement, ces vieux chemins, souvent, ils suffisent tout à fait à l'utilisation qu'on pourrait en faire. Et alors, tu parlais des golfs, effectivement, dernièrement, les golfs ou les lotissements
font partie des raisons de coupure. Pour les chemins existants, et ça coupe des passages, ça c'est clair. J'ai vu aussi sur des lotissements.
Ce phénomène de disparition des chemins dont tu parlais tout à l'heure, moi j'avais lu une note rapide de l'INSEE, je crois, il y a une quinzaine d'années. La première chose que j'ai lue sur le sujet, qui faisait état de 200 000 km de chemins perdus en France depuis la Deuxième Guerre. Le coup de départ de tout ça, ça a été le remembrement agricole, parce que tous ces chemins en étoile autour des bourgs, évidemment, ça fait des parcelles un petit peu triangulaires. Donc on les a effacés.
Pour que le tracteur fasse sa ligne tout droit, c'est plus facile qu'il laboure finalement le chemin qui existait avant. Mais il y a également déviance, c'est qu'aujourd'hui les mairies qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui normalement ont en charge l'entretien de ces chemins, elles ont plutôt tendance à s'en décharger et éventuellement
rétrocession. Tout à fait. Et puis l'autre grande cause de disparition de ces chemins, ça a été le déploiement d'infrastructures autoroutières ou ferroviaires à grande vitesse, même si d'ailleurs on voit que les petites lignes, les passages à niveau d'autrefois sont de plus en plus supprimés. Mais effectivement, quand vous avez une autoroute ou une LGV qui franchit, il y a un chemin sur 10 qu'on rétablit. Et dans ce cas-là, vous avez deux lambeaux de chemin, 30 ans plus tard, il n'y a plus de chemin.
Oui, ils sont felins, ils ne peuvent plus circuler, ils ne peuvent plus communiquer ensemble. Mais alors dis-moi, il faut quand même qu'on avance un petit peu c'est le constat, effectivement. Donc tu prospectes de façon à faire revenir, à remettre en lumière un peu ces chemins, tu en fais un peu l'inventaire. Et comment ça se traduit derrière? Parce que j'ai vu que tu faisais des cartes papier, dis-moi, mais est-ce que tu n'es pas en train de revenir au XVIIe siècle? Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec des cartes papier? Quel est le projet?
Alors, 17e siècle, peut-être pas tout à fait. Ceci dit, j'ai beaucoup travaillé sur les cartes anciennes pour construire ma carte des environs de Paris. Donc, c'est une carte qui montre finalement le réseau du point de vue du vélo. Avec donc l'idée que les petites routes sont beaucoup plus importantes pour nous que les grandes, et donc finalement c'est elles qui doivent structurer l'espace. Quand on regarde une carte ordinaire, on a toujours du mal, même sur une carte topographique qui est à peu près exhaustive, on a du mal à suivre un chemin et à savoir s'il va vraiment être continu ou si par tel endroit il va être coupé. Moi, l'idée, c'était vraiment d'abord de faire une inversion de la hiérarchie du réseau, c'est-à-dire que les autoroutes sont là, mais pour repère en filigrane, et c'est vraiment les petits chemins, les petites routes qu'on voit le mieux et qui président à la représentation de l'espace. Alors, c'est une carte effectivement que j'ai fait en papier. Je travaille au développement d'une appli parce qu'aujourd'hui c'est indispensable pour bien des gens. Ceci dit, c'était un premier travail pour réfléchir et pour discerner ce réseau, parce qu'il y a forcément un travail finalement de tri intellectuel à refaire pour le reconstruire. Et donc voilà, c'est cette carte des environs de Paris que j'ai édité.
Une carte papier, elle est forcément figée, et si tu retrouves d'autres choses, enfin, évidemment c'est compliqué de la faire évoluer, donc il faut la remettre à jour.
On fait des comme Fidigène ou comme fait Michelin. Évidemment, une carte, c'est un instant T. Ouais. Donc ça nécessite d'être mis à jour régulièrement. Moi, j'ai fait c'est à peu près 2 ans de travail. J'ai attendu qu'elle soit
2 ans parce que c'est un travail de. J'imagine. Enfin, je vois à peu près ce que ça
fait. C'est titanesque.
Ouais, c'est titanesque. Ouais.
C'est titanesque, mais j'ai attendu qu'elle soit suffisamment complète et fiable pour la commercialiser. Et donc voilà, c'est une carte qui est, c'est la seule carte à mon avis je suis à peu près sûr, c'est la seule carte des environs de Paris qui soit conçue directement pour les cyclistes et également pour les marcheurs.
Oui, ça j'en suis sûr. Enfin, mais j'ai jamais entendu parler de ce projet. Avant qu'on
écoute, c'est une carte que j'ai lancée l'année dernière. Elle a 3 avantages, si on peut la résumer très rapidement, pour les cyclistes. Elle a 3 avantages principaux et 3 points de distinction par rapport à une carte ordinaire. Évidemment, elle ne vise absolument pas à remplacer la carte topographique, mais elle répond aux attentes des cyclistes. D'abord parce que, en termes d'échelle, elle correspond plus au déplacement du vélo que la carte topographique, utilisée par les randonneurs.
Un niveau de zoom qui est plus pertinent pour le cycliste. Le cycliste, effectivement, a des capacités de déplacement beaucoup plus larges qu'un randonneur, et donc le 1/25 millième, j'imagine, n'est pas de rigueur sur ce genre de choses.
Oui, là, on est plutôt sur du 60 millième, ce qui, en fait, correspond à une carte de 60 km par 80 km. D'accord. Le cycliste, effectivement, se projette sur un espace beaucoup plus important. Et donc, à un moment donné, tout le détail des voies de desserte et de lotissement ne nous intéresse pas. Donc, ça disparaît de la carte. Et c'est les chemins comme on peut le voir sur une carte Michelin où les villes sont très simplifiées. Là, le réseau est nettement moins simplifié puisqu'on est au 60 millième. Mais on supprime tout ce qui est vraiment dessert, lotissement.
Inutile pour le cycliste.
Voilà, tout ce qui n'est pas chemin, en fait. Ouais. Hein, il n'y a que des chemins sur cette carte. Ensuite, on a le relief en lecture directe. C'est toujours un peu difficile, surtout en milieu urbain, de lire les courbes de niveau. En milieu urbain, en fait, sur la carte topographique, elles sont effacées. Là, elles apparaissent en couleur. Donc, non seulement on les voit...
Donc, le radar qu'on va découvrir en vélo, genre 14% qui se lève devant soi en plein milieu de ville, ça va sauter un peu plus aux yeux.
Ça saute aux yeux, voilà. Et puis on sait dans quel sens c'est la pente. Tandis qu'il faut avoir bien appris à lire une carte hygiène pour être sûr de savoir si on va monter ou descendre. Là, il n'y a plus de problème. Il y a cette inversion de la hiérarchie du réseau dont je t'ai parlé, avec évidemment une distinction entre les routes goudronnées et puis tout ce qui est plus sentier. Et puis, il y a une couche d'informations, de points d'intérêt patrimoniaux, où notamment le fait apparaître tout ce qui est monuments historiques, vieux pays dans une couleur, et puis l'architecture contemporaine remarquable également dans une autre couleur.
Donc c'est on là voit que finalement ta formation initiale revient un petit peu au-dessus de tout ça.
Voilà. D'accord. Voilà, tout à fait.
Ok, bah écoute, donc, c'est intéressant, mais je vois qu'en plus de la carte, tu en fais profiter les gens, puisque t'organises des balades également, puisque pour fabriquer cette carte, évidemment, t'as dû toi-même rôder dans tous les chemins possibles et impossibles pour la constituer. Donc cette exploration, finalement, elle se concrétise par des balades que tu organises.
Oui. Tout à fait. Depuis l'année dernière, j'organise. Au départ, j'étais très ambitieux. J'organisais 4 balades par mois sur 4 formats différents. Et puis aujourd'hui, je me suis concentré sur les deux qui me semblent les plus intéressants, c'est-à-dire des promenades urbaines, où là c'est vraiment des promenades, des balades tout public. On fait jamais plus de 45 km. On fait des pauses, on discute, on s'arrête devant des ensembles urbains ou des bâtiments remarquables. Et avec des thématiques différentes. En fait, la première thématique c'était Grand Paris. Donc, on est allé à Saint-Denis, on est allé à Créteil, on est allé autour de la Défense, etc. Et puis, en ce moment, on est sur des thématiques plus architecturale, donc on a fait un Paris médiéval, un Paris classique, l'architecture moderniste, etc. Donc vous imaginez pas mal de choses, évidemment. Donc ça, c'est pour les promenades urbaines.
T'as fait que deux sorties par mois, c'est parce que finalement le temps est assez maussade sur Paris, c'est ça, hein?
Non, il fait toujours très beau, surtout le dimanche matin.
Je rigole, parce qu'Aix, avec mes copains parisiens, c'est le sujet de discussion à chaque fois, la météo. Les gars, quel temps il fait chez vous? J'ai été parisien, c'est pas une critique, je me suis bien plu à Paris, mais dans la région parisienne, mais néanmoins, depuis que je suis à Aix, franchement, la lumière et le soleil sont plus fréquemment allumés, quoi, donc...
Disons qu'en hiver, on roule pas tout à fait dans les mêmes conditions. Ouais. Même si, en fait, en hiver, nous, on est obligé carrément d'aller dans la gadoue, quoi. Dans le midi, on peut faire des belles sorties sur route.
Ouais, ça rajoute un côté aventure.
C'est parfois un peu maussade. Ceci dit, dès qu'on est dans les bois, on a des forêts magnifiques autour de Paris. Et donc, c'est d'ailleurs le thème deuxième type de sorties que j'organise. Ce sont des sorties gravel. Alors là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sportif. On fait dans les 80 km dans la matinée. Au départ de Paris, et à chaque fois on va voir du beau paysage, alors plutôt des forêts l'hiver un peu, et puis quand les champs de blé sont bien dorés, on va plus dans les plaines.
Non, bah écoute, beau projet. Et donc t'as un agenda sur le site, enfin, donc là je dis ça pour nos auditeurs, donc allez voir le site Odos, donc chemin en grec, hein, et là c'est pas en Grèce que vous allez, c'est dans le Grand Paris, la région parisienne et le centre parisien, donc avec tout ce que nous a expliqué Adrien. Et donc quels sont les projets derrière? Donc tu as fait allusion à une appli qui est en cours de développement, comment ça se passe? Tu vas transposer toutes les données que tu as matérialisées en papier, tu vas les numériser, comment va être constituée cette application, quel est son objectif?
Écoute, au niveau technique, c'est pas encore précisé. L'idée, finalement, c'est de faire la traduction en appli, en numérique, du projet que j'ai pu monter, évidemment sur la région parisienne uniquement, en carte papier. Et puis, cette traduction numérique permettra évidemment de jouer sur un territoire un peu plus grand. L'idée, c'est vraiment de faire se rencontrer les usages du déplacement à vélo et les usages liés au tourisme et au patrimoine.
D'accord.
C'est-à-dire de pouvoir guider les gens sur des chemins tranquilles. Par la plupart des applications aujourd'hui sont en termes de routage sur le vélo sont pas excellentes. Elles vous emmènent quand même globalement sur le chemin le plus direct en évitant difficilement les encombrements. Là, c'est vraiment
c'est même épouvantable. Enfin, je sais pas, moi, des fois avec Komoot ou d'autres, tu te retrouves dans des trucs pas possibles, quoi. Enfin,
blabla. Le podcast de Bike Café.
Donc l'idée, c'est bien d'offrir d'abord un service de guidage GPS qui soit vraiment efficace pour éviter les grands axes. Ça, c'est la première promesse. Et la deuxième, c'est toute cette couche de services de renseignement finalement sur les points d'intérêt, sur le patrimoine. D'accord. Où aujourd'hui on a quand même un petit peu de mal à trouver les bonnes infos sur les points d'intérêt. On trouve pas mal de choses sur internet, mais sur des ressources qui sont très différentes, très diverses et qu'il faut connaître en réalité. Et donc l'idée, c'est vraiment de mixer cette approche je me déplace sur les chemins tranquilles et je découvre les points d'intérêt qu'il peut y avoir autour de moi.
D'accord, donc il y a deux axes. Effectivement, favoriser le déplacement à vélo en lui offrant des alternatives plus intéressantes que les routes traditionnelles. Et en plus, on peut s'y cultiver, découvrir des choses, et c'est recensé sur une appli qui sera mise à jour au fur et à mesure de tes découvertes, puisque j'imagine que tu dois découvrir toujours et encore de nouvelles choses.
Alors là, l'idée, c'est quand même de dépasser un petit peu les bornes, les limites de mon univers à moi et de
ah oui, de faire avec les autres,
bien sûr, de sortir des limites de Paris et de sortir des strictes limites de ce que j'ai pu compiler comme information, mais tout à fait.
Ça rejoint un projet dont j'ai entendu parler il y a pas longtemps, un projet de vélographie où effectivement les gens se retrouvaient autour d'une sorte d'exploration comme ça, basé sur en fait le patrimoine local. Donc c'est assez intéressant.
J'ai entendu parler de...
Ouais. C'est quelqu'un de Lyon.
J'ai entendu parler de... Ouais.
Quelqu'un de Lyon, c'est un vélographe. Et puis il y a aussi un autre projet, je pense que tu connais autrement, c'est un site sur lequel il y a pas mal d'informations et qui va dans le sens de ce que tu décris sur effectivement ces chemins continus qui permettent d'être des alternatives intelligentes et intéressantes par rapport à ces fameuses voies cyclables qu'on essaye de nous imposer et qui sont conçues par des gens qui font absolument pas de vélo.
Qui cherchent surtout à vendre du béton.
Oui,
c'est mon point de vue. Exactement. Alors effectivement, tu fais référence à deux choses qui m'ont... De collectifs qui m'ont marqué dernièrement. Les vélographes, ce mot est très joli, et que effectivement la vélographie, c'est exactement l'approche que je développe, l'approche de la promenade à vélo que je développe. C'est l'idée que une promenade, elle doit nous ouvrir les yeux sur le monde qui est autour de nous, et donc nous faire voir un territoire un peu dans sa diversité, au lieu de toujours passer aux mêmes endroits, d'aller le voir dans sa profondeur. Et puis en métropole, c'est génial parce qu'on passe d'un univers à l'autre. Ils sont totalement opposés. On peut passer d'une zone industrielle à un centre ancien à une vitesse assez rapide. Et donc ça, c'est toujours des aperçus, des raccourcis incroyables. Donc oui, j'aime beaucoup la notion de géographie. Et puis effectivement, j'ai lu il y a quelques semaines, je crois que c'était en janvier, qu'ils ont sorti leur étude sur Autrement.
Ouais, c'est très intéressant.
Voilà, et effectivement, là, ça rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur alors eux vraiment, ils ont réfléchi sur la dimension espace rural des vieux chemins, alors que moi j'ai mené la réflexion sur Paris. Alors
Paris, ça évidemment avec mon œil provincial, parce que j'avais écrit un article sur le vélotaf des campagnes. Tu sais, c'est quelque chose complètement ironique et ignoré. Aujourd'hui, on parle de vélotaf, c'est uniquement des grandes cités urbaines, etc. À Paris, évidemment, nombril du monde qui est sans arrêt en train de parler de ces problèmes de circulation à vélo. Et malheureusement, je voyais les chiffres, notamment ceux qui dénonçaient le nombre de morts sur les routes, mais le nombre de cyclistes tués malheureusement sur les routes et souvent dans des déplacements justement pour aller au travail. C'est en province, parce que les vitesses ne sont pas les mêmes, les routes, évidemment, moi je ne te dis pas les routes ici bordées de platanes étroites sur lesquelles les gens des Bouches-du-Rhône qui ont plutôt le sang chaud au volant se livrent à des vitesses de folie, quoi. Donc c'est éminemment dangereux. Donc, on a évidemment nous-mêmes cultivé, j'avais interviewé plusieurs vélotaffeurs qui tous les jours utilisaient le vélo pour aller travailler, avec des profils très différents et des kilométrages évidemment plus importants que ceux qu'on peut faire en région parisienne, et qui s'en sortaient un peu, mais toujours en cherchant des chemins alternatifs. Et puis on avait fait aussi quelque chose de très intéressant, je trouve, qui allait dans l'autre sens, celui que tu évoquais tout à l'heure sur le niveau culturel. C'est, on avait repris le concept, enfin c'est pas moi, c'est mon ami Dan de Rosil à Arles, avec son groupe Arles Gravel, qui ont inventé un concept, enfin plutôt décliné un concept qui avait été inventé par des urbanistes, hein, qui s'appelle les lignes de désir, qui sont en fait des... Tu sais, les lignes de désir, c'est un petit peu le chemin qu'on prend tout droit en se fichant complètement de ce que les urbanistes ont prévu pour nous, piétons par exemple, pour aller d'un endroit A à un endroit B, tu sais, en contraignant par des zigzags, etc. Et puis tu vois la terre ou dans la neige, plus exactement en hiver, tu vois les traces de la réalité du déplacement. Et donc on a essayé de trouver...
J'appelle ça des sentiers de chèvre. Effectivement, dès qu'il y a des cheminements biscornus, la réalité des faits, c'est que les gens prennent la ligne droite. Souvent, on essaye de les en empêcher en mettant des petites barrières, etc. Alors qu'en réalité,
ça tient pas.
Il faudrait s'adapter. Hein. On faudrait quand même, on est en 2024, adapter l'espace aux usages et non pas l'inverse.
Exactement. Mais surtout, éviter de faire en bureau d'études des prospections qui n'ont pas de sens une fois qu'on est arrivé sur le terrain. Et puis surtout, oublier quels étaient les chemins préexistants qui avait du sens. Enfin, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit précédemment. Mais après ce long échange, Adrien, très intéressant. Je pense qu'on n'a pas fini d'ailleurs de se parler sur le sujet.
Non. ce que tu viens de me dire m'évoque encore des choses à dire
sur lesquelles rebondir. Puis j'espère ce type de projet que tu mènes sur l'île de France, enfin sur le Grand Paris, s'exportera au-delà. Parce que je pense que c'est valable pour un tas de régions. Moi, dans ma région, c'est effectivement une grosse préoccupation. On a parlé de la lutte des chemins contre la disparition des chemins ruraux. Et puis, effectivement, la structuration de ces trajets alternatifs qui nous préoccupent tous pour éviter à la fois les problèmes, les dangers de la route. La cohabitation avec les automobiles, c'est toujours compliqué et qui est toujours un petit peu... en opposition, alors que c'est une route qu'on devrait partager. Et puis cette gabegie de ce qui est fait sur les constructions qui n'ont pas de sens, quoi. Enfin, c'est faut qu'on arrête, quoi, parce que ça devient complètement débile. Nous, on nous construit des pistes cyclables dans un enrobé de couleurs différentes. Parce que ça fait plus joli sur le bord des routes d'avoir un enrobé beige, qui est évidemment plus rugueux et qui, évidemment, va faire une jointure entre les deux enrobés. Au bout d'un moment, avec la dilatation qui est liée à la météo, au vieillissement, ça va faire un sillon dans lequel le mec il va mettre sa roue, son pneu, etc. Il va se casser la figure. Et puis cet enrobé brun au départ, jaune, qui peut paraître joli eh ben, il va devenir complètement dégueu parce qu'il y aura, il y aura plein de débris dessus. Il sera pas nettoyé parce que c'est pour les cyclistes, donc il sera pas entretenu. Puis comme les voitures passent pas dessus, il y aura pas cet entretien qui est assuré par les pneumatiques des voitures.
J'aime beaucoup ça. Effectivement, pour moi, l'utilité principale de l'automobile, c'est de prendre les bouts de verre sur les routes.
C'est ça. De ramasser les merdes, de les envoyer plus loin.
Non, mais ceci dit, ouais, c'est très juste ce que tu dis sur les excès d'aménagement. À un moment donné, on a besoin de choses simples.
Ah oui, je crois que plus on élargit les routes, c'est électoral, mon cher Adrien. Qu'est-ce que tu veux, c'est quand une commune te dit j'ai fait tant de kilomètres de pistes cyclables, c'est qu'elle peut annoncer ça. Et j'ai mis tant de budget. C'est tout ça. En fait, on a une communication par l'argent, si tu veux. On a mis tant de budget pour le vélo, mais vous avez fait quoi avec ce budget, quoi? C'est là qu'il faut creuser.
Vous avez demandé aux cyclistes ce qu'ils voulaient. Ouais, ouais.
Interviewer les cyclistes pour voir s'ils en ressentent les bienfaits. Ouais.
Plus on élargit une route, plus les vitesses de circulation sont rapides. Ouais, et aujourd'hui, très clairement, on n'a pas besoin d'augmenter les vitesses de circulation, on a besoin de les réduire. Alors, on sait évidemment qu'électoralement, ce n'est pas le sujet le plus facile à porter. Non. Ceci dit, les voitures bientôt se conduiront toutes seules. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui encore, on n'a pas. On devrait rendre obligatoire qu'il y ait une puce GPS sur les voitures. Et comme ça, dès qu'une voiture fait une contravention, on peut lui envoyer automatiquement. Ouais. Et les comportements seraient beaucoup plus responsables qu'à mettre des dodanes et des chicanes et des aménagements de toutes sortes.
Techniquement, c'est possible, puisqu'on voit apparaître sur le compteur des voitures la limitation de vitesse locale. Donc, il suffirait simplement que la voiture soit réglée en fonction de la vitesse locale affichée dans le véhicule, finalement, qui a un limitateur. techniquement, enfin, ça serait faisable, mais évidemment, ça ne sera pas faisable.
Non, mais c'est contre
avec peut-être un moyen d'urgence pour débloquer la situation, mais voilà, ça serait déjà, pour les gens raisonnables qui se soumettraient finalement à cette limitation automatique, ça serait
la
déjà.
La plupart des gens conduisent de façon extrêmement raisonnable. Moi, alors, qui fait du vélo depuis 25 ans, je constate que la plupart des gens, les automobilistes, sont quand même de plus en plus, font extrêmement attention aux cyclistes, vous doublent prudemment, vous faites de la priorité, etc. sont très courtois. C'est vraiment une minorité qui conduit.
Ouais, c'est la minorité visible, quoi. C'est un peu ça qui déclenche. Alors les cyclistes
qui détestent, on ne sait pas bien pourquoi les cyclistes.
Les cyclistes sont pas non plus blanc bleu. Enfin, c'est pas, voilà. Il y a des cyclistes, franchement, qui exagèrent un peu, comme les paquets de cyclistes qui s'agglutinent le week-end et qui embolissent toute la route. Voilà, c'est agaçant au bout d'un moment.
C'est une question. Ça est une question de courtoisie, mais effectivement, quand on est à vélo, surtout, on doit priorité absolue aux piétons. Je crois que si on veut rester en vie, après, il faut respecter un minimum le code de la route.
Exactement, Adrien. Bah écoute, on va finir là-dessus. Restons en vie, restons en tout cas agiles sur nos projets. Et puis, j'invite encore une fois tous nos auditeurs à découvrir Odos et puis en même temps découvrir Paris et ses environs. C'est ce que tu nous proposes sur
ton
site.
Avec plaisir. Deux dimanches par semaine. Je serais enchanté de vous accompagner, amis auditeurs, à Paris et autour de Paris.
Merci beaucoup, Adrien. Bah, écoute, je te dis à très bientôt.
Je t'en prie.
Et puis, je suivrai l'évolution. Tu nous tiendras au courant sur l'évolution et ton application quand elle sera disponible.
Avec plaisir. Merci, Patrick.
Merci à toi.
Blabla, le podcast de Bike Café.